Ce matin, vous recevez une artiste.
Bonjour Apollonia Sokol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une langue, une émotion, une femme politique et un rouge à lèvres, vous seriez qui? Vous seriez quoi?
Alors j'avais pensé pour la langue, sans doute le turc ottoman par exemple. Enfin, je le connais pas, mais c'est une langue qui vient de l'Oural et qui m'intrigue énormément.
Le turc ottoman.
Enfin, j'appelle ça le turc ottoman, mais je sais pas. Mais j'essaye d'imaginer l'ancien turc, quoi, de l'époque.
On prend. Voilà. Une émotion.
Une émotion. Ben, je pense que je passe, du désespoir à l'extase, et ça retourne dans les deux sens. Donc,
oui,
voilà.
Je vous le confirme. Quand on voit le film, vous passez tout le temps du désespoir à l'extase. Si vous étiez une femme politique.
Alors, j'ai pensé Hildegard von Bingen, qui était une énorme abbesse XIIIe siècle, et une femme très influente.
Et un rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres est important chez vous.
Ah, le rouge à lèvres, oui. Alors moi, je maquille mon visage pour je peins mon visage pour me faire un autre visage. J'ai pensé un rouge foncé plutôt mat et plutôt sur les dents.
Ah,
que ouais. Sur les lèvres. Ouais.
Un rouge que vous mettez sur les dents, d'accord. Mes peintures ne correspondent jamais à ce que j'avais prévu, mais je ne suis jamais surpris, disait Andy Warhol. Et vous, Apollonia Sokol, êtes-vous surprise parfois par les tableaux que vous peignez?
Alors, pour moi, la peinture, c'est vraiment que du doute. Et effectivement, il ne se passe jamais ce que j'ai vraiment prévu, mais je suis toujours surprise par la peinture. Je pense que je suis au service de la peinture et ça n'est pas... Mes travaux ne sont pas des projets, donc en fait, il y a toujours de la surprise et... Ouais, je sais pas.
Vous êtes une artiste peintre de 36 ans, déjà bien reconnue dans le milieu de l'art contemporain. Vous êtes aussi le personnage central, l'héroïne d'un documentaire singulier, troublant, hypnotique, vraiment hypnotique, déjà multiprimé dans plein de festivals. Il s'appelle Apollonia Apollonia. Il est sorti mercredi dernier au cinéma, réalisé par une réalisatrice danoise, Léa Globe, qui vous a filmé pendant 13 ans, Apollonia. 13 années où la caméra ne vous a pas lâché depuis votre jeunesse et vos études aux Beaux-Arts à Paris, jusqu'à la Villa Médicis où vous avez été résidente, en passant par votre parenthèse américaine à Los Angeles. C'est l'histoire de l'éclosion d'une artiste. C'est votre histoire à vous, Apollonia Sokol. Mais à l'origine, ce film devait durer seulement quelques semaines. La réalisatrice, elle était dans une école de cinéma au Danemark. Et vous étiez aux Beaux-Arts et elle devait vous filmer pour un film de fin d'année, un film d'école, quoi, un film académique. Il n'y avait absolument pas une vocation d'en faire une œuvre d'art, un film de cinéma qui va durer 13 ans de tournage. C'est assez vertigineux, non? Vous auriez imaginé qu'elle vous aurait pas lâché pendant 13 ans?
Personne n'avait imaginé quoi que ce soit, en fait. C'était, oui, comme vous l'avez bien dit, un exercice scolaire qui devait durer uniquement 2 semaines. Je ne connaissais pas Léa et elle ne me connaissait pas, donc c'était juste une aventure comme ça, qui a commencé. Et puis finalement, au fil des années, peut-être que moi j'ai vraiment eu besoin de sa caméra. Il y a eu aussi des moments dans la vie où elle a eu des épreuves et où elle a eu besoin de moi en retour. Et nos rapports ont changé, au fil des années. Mais effectivement, incroyable.
Et tout ça, vous le filmez. Vous filmez tous ces moments-là, ces moments à elle, puisqu'elle est aussi un des personnages du film. C'est très étonnant, ce film. En fait, c'est votre portrait, Apollonia, mais c'est le portrait de 3 femmes. Vous, cette réalisatrice danoise, Léa, et l'activiste ukrainienne, Oksana. Et à travers vous, et à travers ces 13 années, on va voir la personnalité de 3 femmes, de 3 femmes européennes, j'insiste, parce qu'on traverse l'Europe, on traverse une époque, on traverse 13 années, on traverse 3 pays qui résonnent avec des langues, l'ukrainien, le danois que vous parlez et le français, et on traverse aussi MeToo qui va arriver et qui va percuter ce film qui on le voit arriver sur 13 ans. Et en cela, c'est un film vraiment qui marque à travers votre personnage également. Vous dites, à des moments, j'avais besoin de cette caméra. C'est vrai que cette caméra vous filme sous toutes les coutures. Vous avez un rapport décomplexé à cette caméra. On vous filme lorsque vous peignez, dans vos expositions, avec vos amis, mais aussi au réveil, fatigué, dans le bain, en train de vous laver les cheveux, nu, en train de vous habiller. On vous voit souvent nu. Elle filme vos joies, elle filme vos doutes, elle filme vos moments de tristesse. Vous n'avez jamais été gênée par cette caméra?
Ah, c'est une bonne question. Eh bien, on pourrait dire que j'ai pas vraiment eu le choix, parce que quelque chose que vous n'avez pas
on va y venir.
Encore. Voilà. J'ai été filmée dès le début de ma vie. et notamment à ma conception. Donc quelque part, la caméra de Léa est venue très naturellement dans ma vie, parce que dès ma naissance, j'ai pas vraiment appris ce qu'est l'intimité ou s'il devait y avoir une dichotomie entre la vie privée et la vie publique. Donc,
et votre, c'est-à-dire que c'est pas seulement votre naissance qui a été filmée par vos parents, parce que ça, la naissance, on l'a, mais ça, d'autres gens peuvent avoir la naissance. Non, votre conception a été filmée. On voit des extraits où vos parents, au moment de vous concevoir, je laisse imaginer où les gens voir le film, mettent la caméra en disant « bon voilà, on y va là ». Et donc, ils y vont pour vous concevoir. Et donc, on les voit faire l'amour, puisque ça se passe comme ça pour faire un enfant, il paraît. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ce rapport assez fou et décomplexé à la caméra. Vous en avez besoin de la caméra. Vous jouez avec elle. Il y a quelque chose, et c'est ce qui vous rend aussi hypnotisante, Apollonia, dans ce film. On ne vous quitte pas des yeux et vous jouez de cette caméra. Alors, vous grandissez dans un lieu artistique. Vous êtes d'origine danoise par votre mère et polonaise par votre père. Vous avez grandi dans un théâtre expérimental, le Lavoir moderne parisien dans le quartier de la Goutte d'Or. Vos parents tiennent ce théâtre dans les années 80 et à l'étage se trouve un atelier où vous allez commencer à peindre et donc vraiment développer la peinture qui va être la passion absolue de votre vie parce que vous avez un rapport, vraiment on pense à Camille Claudel ou à Frida Kahlo quand on vous voit, le rapport à l'art, à cette passion artistique qui écrase tout dans votre vie, cette radicalité qui est assez folle. On va écouter votre père parler de ce lieu si particulier, le Lavoir moderne parisien.
Ça fait 25 ans cette année, nous avons fêté la 25e année d'ouverture du Lavoir moderne parisien, donc à Château-Rouge, en plein cœur de la Goutte d'Or.
C'était une vieille laverie avant, c'est ça ?
Un lavoir qui est décrit dans les notes de Zola lorsqu'il a écrit, lorsqu'il a écrit l'Assommoir, Germinal, etc. Il a fait des descriptions extrêmement précises. Et donc c'est ce fameux lavoir qui à l'époque avait 107 places et qui a fonctionné de 1850 à 1953. Après c'est devenu une petite usine industrielle, ensuite une ruine et on l'a repris en 86 et retapé pour en faire une salle de spectacle et un haut lieu culturel ouvert sur un quartier extrêmement intéressant d'un point de vue culturel justement.
Il est important ce lavoir dans le film, hein. Vous allez finir par en partir. D'abord une première fois avec votre mère quand votre père, quand vos parents se sont séparés, puis vous allez y revenir, vous vous battez pour pouvoir garder l'endroit et finalement vous allez devoir partir parce que insalubrité, parce que problème, vous allez le quitter. Mais je reviens sur l'éclosion de l'artiste, de cette femme qui donne tout à son art. Il y a un moment dans l'enfance qui est très troublant. Vous allez souffrir d'une maladie grave, rare, de la vessie, une sorte de cancer. Les médecins vous donnent 10 ans pour vivre. Et qu'est-ce qui se passe ? Les bonnes sœurs, qu'est-ce qu'elles vont faire quand celles qui vont vous soigner dans l'hôpital ?
Oui, voilà. Alors, moi, j'étais un petit peu touchée par la voix de mon père. Là, c'est rigolo. C'est vrai que le théâtre a été fondé par mes deux parents. Il dit « on » et ma mère a été co-créatrice, bien évidemment, de ce lieu. Je voulais juste le dire parce qu'on l'oublie parfois. Du fait de l'invisibilisation, hein, qui est assez... qui arrive souvent pour les femmes artistes. Mais donc... Moi, en ce qui me concerne, le début de ma vie, vous m'avez comparé à Frida Kahlo, beaucoup d'artistes commencent leur vie d'artiste finalement par la souffrance. Ça arrive, dans leur mythologie personnelle. Et moi, j'avais ce mélanome de 4 centimètres à l'intérieur de ma vessie.
Vous étiez enfant.
Et j'étais enfant, donc en fait, vraiment, mon entrejambe était un lieu de bataillon pour tous les médecins. Parce que c'était une maladie orpheline. Enfin, on ne connaissait pas ce genre de mélanome à l'intérieur du corps, donc normalement, habituellement, c'est à l'extérieur, et puis il faisait la taille de 4 cm, donc en fait, les médecins me disaient que c'était la taille d'un pouce d'adulte. Plus tard, j'ai lu les textes qu'ont écrit les médecins, qui sont comme des scénarios, un peu, hein. Ils racontent l'histoire de ma famille, pour comprendre l'aspect psychologique, en fait, comment ça se fait que ce mélanome a pris forme à l'intérieur de ma vessie. Et c'est toujours une histoire de motifs et de pigments. Donc j'y vois comme un lien un petit peu magique, spirituel avec finalement ma vocation.
Et c'est vrai qu'on pense à Frida Kahlo. Enfin, moi j'ai pensé à Frida Kahlo parce que vous la représentez. Comme vous faites de la peinture figurative, vous peignez également. Il y a des peintures de vous nues où on voit la cicatrice. Un peu comme Frida peignait ses corsets qui lui faisaient mal et qui faisaient une histoire de douleur. Mais c'est vrai qu'à l'origine, il y a ce rapport au corps qui fait mal et qu'on retrouve dans toutes vos peintures. À l'origine, il y a la souffrance.
Je pense que l'art sauve. C'était d'abord les artistes, donc c'est mais on a envie de penser plus qu'il s'agit de quelque chose de plus important, qu'il s'agit de quelque chose de l'ordre du génie, que l'art est plus que quelque chose de salvateur, mais je pense qu'il est d'abord salvateur pour l'artiste, oui.
Et je veux juste préciser, qu'est-ce qu'elles vous montrent, les bonnes sœurs qui vont vous marquer, en fait? Elles vous montrent des icônes, elles vous montrent des peintures.
Oui, donc moi j'ai grandi avec plein d'artistes et plein de peintres, notamment les amis de ma mère qui peignaient aussi, voilà, dans le lavoir. Mais c'est vrai que ce moment-là, l'hôpital où les nonnes vont me ramener la Bible pour me convertir quelque part et m'aider avec des peintures de la peinture de la Renaissance italienne, des grands classiques occidentaux. Et là, je vais vouloir me baptiser après avoir passé à l'hôpital. Ça, c'est pas dans le film, mais j'insiste pour me faire baptiser afin de me rapprocher de la peinture et devenir peintre. Mais bien évidemment, plus tard, en tant qu'adulte, j'ai compris que pour être peintre, il faut tout simplement peindre et non se convertir.
On voit les moments de désespoir du début où ça marche pas, vous êtes perdu, vous vous accrochez à des moments où vous voyez en train de pleurer en disant mais comment je vais y arriver, comment je vais devenir une peintre, comment je vais devenir une des meilleures, la meilleure aussi. Il y a cette idée de et ouais, ça vous fait marrer, mais c'est vous, hein. Et puis il y a un de vos profs aux Beaux-Arts qui vous dit cette phrase très dure, qui vous dit votre personnalité si intense, si fiévreuse, votre personnalité Apollonia est plus intéressante que vos peintures.
Oui, ça c'est mon jury, mais c'est un jury externe, hein, c'était pas un de mes profs, c'est le jury qui vient décider de si je vais être diplômée, comment je vais être diplômée. C'est toujours la même chose, hein. Quand on est une femme, on est toujours, soit on est trop, soit on n'est pas assez. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire que mes tableaux sont moins intéressants que ma personnalité, étant donné que ma personnalité, ma personne, mon corps mortel, mon corps vivant, moi, je suis là uniquement pour protéger mes tableaux et pour les faire. Toutes les choses qui m'arrivent dans la vie, c'est pour le métaphysique, le spirituel, l'art. Et si aujourd'hui j'étais menée à mourir, j'en serais bien heureuse. Non, c'est terrible ce que je viens de dire.
Non, oui.
Mais non, mais je veux dire, pour moi, les tableaux sont plus importants, en fait. Et d'ailleurs, dans le film, plusieurs fois, on parle du rapport au corps, comme vous dites, et peut-être même des questions de genre. Il y a des moments où je parle de, quand je suis dans cette baignoire, que j'aimerais ne pas être une femme, que j'aimerais tout simplement être la peinture.
Oui, vous rêvez d'être une peinture, en fait.
Oui.
Sans genre, sans femme, sans corps, mais une peinture. Et puis, il y a la question de la maternité, qui traverse aussi ces 13 années, puisqu'il y a, comme vous, ou votre copine Oksana qui dit « on vit pour l'art, il n'y a pas la place pour un enfant, il faut choisir », et la réalisatrice qui, au fil de ces 13 années, va avoir un enfant. Pour vous, c'est clair, c'est soit l'art, soit avoir un enfant, ça ne peut pas être les deux ?
Bon, alors ça, il y a différents moments dans ma vie. Bon, il y a les 13 ans dans le film, mais moi aussi, ma vie, elle a continué après. J'ai d'autres idées aujourd'hui. Je ne veux toujours pas d'enfant, pour d'autres raisons. Je pense que cette idée, comme quoi il faut choisir entre l'art et la peinture, l'art et la maternité, elle est un petit peu difficile, hein. Je connais énormément d'artistes qui ont des enfants, et dans l'histoire, il y en a eu beaucoup, d'ailleurs, aussi, qui ont eu des carrières très impressionnantes et qui sont des références. Donc, mais aujourd'hui, en fait, le fait qu'on me pose tout le temps cette question au fil des années, je suis obligée de trouver des réponses. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
Pourquoi ?
Aussi pour des raisons climatiques, par exemple.
Il y a la parenthèse américaine. À un moment, vous étouffez à Paris, vous partez à New York, puis à Los Angeles, où vous rencontrez celui que vous appelez le Satan du monde de l'art. C'est un investisseur très riche qui prend de jeunes artistes sous son aile et qui doivent ensuite travailler pour lui. Vous dites, et vous avez à un moment signé un pacte, comme d'autres artistes, avec cet investisseur, qui va vous envoyer chez un de ses clients, un collectionneur. Vous arrivez dans une chambre d'hôtel, et là, vous avez un homme très corpulent, mal rasé, en jogging, on est à Los Angeles, qui vous regarde et qui vous propose de passer un casting pour devenir actrice, en échange d'une rétribution en nature. Enfin, on le comprend. Qui est cet homme que vous avez rencontré dans une chambre d'hôtel à Los Angeles ?
Alors là, vous avez vraiment sorti les dossiers. Donc cette scène n'est pas dans le film, hein, parce que le film a un certain anachronisme. Comme ça, la réalisatrice n'est pas toujours là pour filmer ce qui se passe. Mais effectivement, j'avais rendez-vous avec Harvey Weinstein, non dans la chambre d'hôtel, mais dans le lobby de l'hôtel, un grand hôtel où il y avait un pianiste qui s'est mis à jouer la musique de ses films. J'ai compris qu'il avait énormément de pouvoir, ce monsieur qui était supposé m'aider, ou peut-être acheter un tableau. Et donc, finalement, aucun tableau l'ont vraiment intéressé. Il m'a dit donc que j'avais du charisme et qu'il était peut-être, que je devrais peut-être monter dans sa chambre, faire un casting. Donc on est vraiment au cœur de hashtag MeToo et j'en
C'est vrai que Me Too vient percuter le film avec Harvey Weinstein, on le voit pas venir, qui arrive dans votre vie, effectivement, vous le rencontrez, il vous propose de monter, passer à la casserole.
Voilà. À la casserole, exactement.
Et vous avez fui.
Mais c'est rigolo, parce que en fait, à ce moment-là, je lui ai répondu, mais non, moi je m'en fiche de vos films, j'ai pas besoin d'être dans votre film, d'ailleurs j'ai déjà un film en cours.
Oui.
Et je parlais à ce moment-là du film étudiant de Léa Globe, on n'avait aucune idée qu'il aurait tellement de succès son film. Ouais. Donc c'est en fait le manque d'arrivisme ou peut-être juste pas envie de jouer, d'être dans le cinéma.
Ça vous fait plaisir ce succès qu'il a, ce film? Les critiques sont dithyrambiques, vous avez été multiprimé dans plein de festivals. Plein de gens parlent de ce film-là, ça vous touche?
Ah oui, ça me touche énormément, c'est fabuleux parce que ce film, comme vous l'avez dit, n'est pas juste un film sur moi, mais c'est vraiment... je pense que c'est une œuvre qui va aussi même transcender son même propre genre, celui du documentaire, par rapport au rapport qu'on a ensemble, moi-même avec la réalisatrice. Je passe de quelque chose, d'un objet de fantasme au début du film, on voit la Bohème, la Paris, des idées comme ça qu'elle a pu avoir sur des projections en fait, de comment est-ce que la vie était. Puis au fil des années, voilà, nos rapports vont changer.
Vous grandissez, et même sa manière de filmer devient plus aboutie. Au début, effectivement, on la sent étudiante, et au fil des ans, ça devient une œuvre artistique. C'est ça qu'on voit dans tout ce film-là.
Et à partir du moment où elle va tourner la caméra vers elle-même et montrer des choses qui sont complètement taboues, comme l'accouchement ou un accouchement catastrophe, eh bien moi aussi je vais devenir une personne. Et c'est là où...
Et puis il y a la troisième personne, parce que je veux la citer, c'est la cofondatrice d'Efemen, Oksana Tchatsko, qui est une activiste, qui est votre meilleure amie, qui est votre âme sœur, et qui va se suicider dans le film. Donc là aussi, on vit ce drame absolu, qui est le drame absolu de votre vie, qui est le suicide d'Oksana en 2018, et qui traverse également le film, que j'encourage à aller voir, parce que c'est une vraie expérience, en fait, ce film-là. Je vais terminer par les impromptus, vous répondez très rapidement. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous vivez dans un atelier où a vécu Picasso, à Montmartre?
Je crois que c'est l'atelier où il a fait les Demoiselles d'Avignon, au Bateau-Lavoir.
Pas mal. C'est vrai que vous faites un truc pas professionnel, vous finissez les tableaux dans les musées la veille du vernissage?
Alors ça m'arrive de faire ça, effectivement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais il faut ne pas oublier que vernissage, le rituel du vernissage vient du fait de vernir les tableaux, et c'est normalement, c'était un rituel, hein, on vernissait en public le jour du vernissage des tableaux.
Donc finalement c'est professionnel.
Donc finalement pourquoi pas.
Ouais. Le meilleur moment de la journée pour peindre?
Alors, on peint tout le temps, quand on ne peint pas. Hein. Je dois être tôt à l'atelier, et pendant 4-5 heures, je ne fais rien, puis au bout d'un moment, ça vient.
Le Louvre ou Orsay?
En ce moment, indéniablement, Orsay, où Nathanaël Herbelin, qui figure d'ailleurs dans le film, expose.
Rodin ou Camille Claudel?
Camille Claudel.
Picasso ou Dali?
Ni l'un ni l'autre.
Le Caravage ou Velázquez?
Caravage.
La liberté ou l'art?
L'art.
Plus que la liberté?
Oui.
Parce que vous êtes drôlement libre aussi, le portrait d'une femme libre, pas seulement d'une artiste. L'art, donc. L'art, absolument. Et Dieu dans tout ça?
La spiritualité, je pense.
Apollonia, Apollonia, voilà le titre de ce documentaire réalisé par Léa Globe, avec donc Apollonia, qui est en face de nous, Apollonia Sokol. Merci d'avoir été avec nous. C'est en salle, au cinéma. Très belle journée à vous.
Merci beaucoup.